Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, merci d'être avec nous. Les grands débats ce matin avec Françoise Degout, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300 avec vos sujets et puis les sujets du jour qu'on vous propose peut-être.
Il y a plusieurs sujets. Ouais. Bon, il y a Angela Merkel, clap de fin, en quelque sorte. Mmh. Hier soir, vous avez entendu tout à l'heure Benjamin Inglès. Et il y a les violences autour de la police. Quoi. Toujours, on y reviendra peut-être après 9h. Le pass sanitaire. Bien sûr, la parité. Elisabeth est allée à l'encontre de ce que disaient certains hier en disant depuis hier 9h22, les femmes travaillent gratuitement. Elle
jusqu'à
dit tout ça, c'est faux, c'est du pipeau. Et elle a expliqué pourquoi. Donc vous pouvez réagir aussi.
On a déjà eu un raptor hier dans les vraies voix qui nous a expliqué par A plus B.
Alors
c'était
oui,
faux.
Oui, dans les vraies voix. Non, mais bah, on va en parler.
Ben voilà,
on va en parler. Alors, allons-y sur ce sujet un instant, calmement mais posément. Et puis on viendra peut-être aussi sur le débrief de l'interview. De Robert Ménard, qui était là tout à l'heure et qui dit bah, « Pourquoi pas, s'il le faut, moi je suis prêt à me mettre derrière un candidat de la droite, quel qu'il soit. » Ça veut dire que ça pourrait être très bien Xavier Bertrand ou Pécresse ou Barnier s'ils étaient en fait devant. C'est ce qu'il a dit et il appelle toujours aussi, il joue toujours les médiateurs entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il ne croit pas et il ne voit pas Éric Zemmour président, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Sur la parité, alors rappelez-nous peut-être, Françoise, vous allez réagir, mais rappelez-nous ce que vous avez développé tout à l'heure pour les auditeurs qui n'étaient pas là à 8h15, en deux mots.
Et surtout Elisabeth. Pour Françoise.
Oui, oui. Moi, j'ai eu la mèche pendant une heure hier dans les vraies voix, donc je vois bien à peu près ce que tu vas dire.
Allez-y, oui.
Pardon, mais je vais quand même le dire, Françoise.
Vas-y.
Donc, non, parce que quand on nous donne ce chiffre de 16% d'écart, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a des gens que si j'arrive avec quelqu'un pour être recruté avec un homme sur le même poste, on va payer l'homme sur le même poste plus cher que moi. Ça doit encore exister. Comme je l'ai dit, il y a encore quelques dinosaures qui ont du mal avec l'égalité. Mais honnêtement, je crois que c'est vraiment une espèce en voie d'extinction. Donc, l'INSEE a fait un calcul, qui était dans ce très bon papier de Front Populaire, et dit que l'écart réel, c'est-à-dire à poste égal, à temps de travail égal, est de 5,3%. Je ne dis pas que cet écart est minable ou qu'on doit s'en satisfaire, mais évidemment, c'est tout à fait... On sort de ce chiffre, et ce qui m'énerve, si vous voulez, c'est que d'abord, il y a une espèce de volonté des féministes de pleurnicher tout le temps, de se présenter comme des victimes. Moi, je suis une féministe conquérante. C'est-à-dire que j'aime parler de nos victoires. J'aime dire qu'effectivement, les choses ont bien avancé. Alors, pourquoi les femmes sont quand même souvent moins payées que les hommes, notamment l'écart... Ce qui est intéressant, c'est que l'écart... Alors, bon, l'INSEE dit que tout simplement, elles n'occupent pas les mêmes postes. Et il y a deux choses. D'abord, on est en train de liquider les générations, pas les liquider, enfin c'est pas...
Ouais,
les,
entre guillemets. Ouais.
De liquider, si vous voulez, le solde d'un temps où les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes chances en termes de formation. Et comme je l'ai dit, on va avoir le problème inverse. Parce que dans 10 ans, on aura beaucoup plus de femmes qualifiées que d'hommes qualifiés. Parce qu'à l'école, on a vraiment un problème de... aujourd'hui, les garçons sont à la traîne.
Bien sûr, c'est l'excellence féminine.
Et donc, ce problème, c'est vraiment résiduel. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, l'écart augmente avec les années. Pourquoi ? Eh bien parce que les femmes, il y a ce qu'on appelle la maternité. Ça ne vous a pas échappé, ça n'a pas encore été aboli par le féminisme et par les transgenrismes et tout ça. Et donc... les femmes, effectivement, prennent plus de temps souvent pour s'occuper de leurs enfants. Alors, il y en a qui le subissent, et notamment les mères isolées qui n'ont pas vraiment le choix. Mais il y en a pour beaucoup pour qui c'est un choix, pour qui elles préfèrent s'occuper de leurs enfants que de faire carrière. Moi, je ne vais pas, si vous voulez... Alors, après, il y a la question, est-ce qu'on devrait compenser cela ?
Oui.
Eh bien, si on doit compenser cela, il faut aussi compenser pour ces pauvres malheureux hommes qui ne peuvent pas enfanter le fait qu'ils ne peuvent pas enfanter. Si vous voulez, il y a un moment, la différence...
Moi, je suis ravie de la nuance. Pardonnez-moi, parce que ce matin, j'ai pas pu entendre Elisabeth. Ouais. Je suis ravie des nuances apportées par Elisabeth, parce que hier, les gens qui démontent ce chiffre le font à gros traits, et c'en est ridicule. Je suis d'accord avec Elisabeth pour dire qu'on n'est probablement pas sur 16% et que ce chiffre, il est volontairement mis pour choquer. C'est dans le bon sens du terme, pour faire bouger les consciences. Je suis d'accord. Moi, là où je la rejoins, c'est que, de toute façon, elle se fait également fond, la disparité, l'inégalité dans l'accession au poste de responsabilité. On peut regarder ça. On peut réaliser que dans une entreprise, bien souvent, ce sont les hommes qui accèdent. Bien sûr qu'à salaire égal, il y a probablement une différence, mais pour arriver à ce salaire égal, il faut arriver à ce poste égal. Et c'est probablement dans l'accession à ces postes de responsabilité qu'il y a une immense disparité. Prenons les médias, prenons une maison que nous connaissons bien, Radio France. J'ai le souvenir du temps qu'il fallait...
C'est l'inverse aujourd'hui.
Peut-être, mais j'ai souvenir c'est à l'inverse. Mon époque du temps où il fallait, pour accéder à la rédaction en chef pour une femme, là où un homme accédait très vite à la rédaction en chef.
Aujourd'hui,
donc,
c'est l'inverse.
Donc voilà. Donc ça veut dire que ça bouge.
70-80%.
Donc ça veut dire que ça bouge. Donc ça veut dire que cette inégalité existe encore, mais surtout, je pense, dans l'accession au poste de responsabilité.
Oui, mais alors, juste un mot là-dessus, je ne crois pas que cette accession différenciée soit due au sexisme. C'est-à-dire, comme l'a écrit je ne sais plus qui hier, si vous voulez, pour un manager, ça n'a pas de sexe. Ce que je veux dire, c'est que ils n'ont. Pourquoi ils font plutôt accéder des hommes? D'abord parce qu'ils sont là souvent quand les femmes sont pas là, puisque effectivement elles sont en congé mat ou etc. C'est aussi des moments parce que c'est entre 25 et 40, si vous voulez, c'est les moments cruciaux pour la carrière.
Isabelle, je vais répondre à ça pour avoir mené pendant très longtemps les grandes négociations paritaires à Radio France quand elles existaient encore, et je les menais pas pour le SNJ, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais pour France Ouvrière. Ben je peux vous dire. Que...
Ah, ils ont dû rigoler à Radio France quand François
Négo. On s'éclatait, c'était assez sympa avec Didier Touranchot, le patron de la DRH. Et bien, je peux vous dire quand même que il y avait une grande part de machisme, en tout cas, on poussait véritablement plus les candidatures masculines que féminines.
Oui, mais c'était il y a combien de temps, pardon,
François ? C'était il y a 10 ans.
Non, il y a 20 ans.
Moi, je pense que ça a beaucoup.
C'était il y a 20 ans.
Moi, je pense que juste.
C'est 2002, 2003.
Françoise.
Allez, attendez.
Françoise, convenez d'une chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour
ça
une
bouge.
Entreprise qui veut, non mais une entreprise qui veut bien se faire voir en termes de com, si vous voulez, elle a intérêt à afficher ses femmes. Ouais. En conséquence de quoi, par exemple, dans une entreprise publique aujourd'hui, si vous avez des postes à la tête d'entreprises publiques qui se libèrent, qu'est-ce qu'on va dire dans les ministères, etc. Que va dire le président ? Trouvez-moi une femme.
Mais ça, c'est rare. 40, une seule femme sur 40 patrons. Oui, oui. Une seule femme, Catherine McTaylor.
C'est privé, je parlais du public.
Non, mais même le public. Oui. Où est-ce que, regardez qui est patron de EDF, de GDF, enfin, franchement, des grands.
La parole, il y a Patrick Roger qui voudrait parler.
Oui, quand même. Et Franck aussi de Narbonne. Bonjour, Franck. Bonjour, Franck.
Salut, Franck.
Bonjour. Oui, je vous entends parler, là. Donc, je trouve que, bon, effectivement, moi, je suis, on va dire, puisqu'il y avait Robert Ménard qui ne s'assume pas d'extrême droite tout à l'heure à l'antenne.
Ouais.
Moi, je dis clairement que je suis d'extrême gauche et donc je milite, on va dire, activement pour l'égalité homme-femme, comme pour l'égalité entre les différentes religions, etc., etc. Mais il y a un point qui me semble important, c'est que au-delà, effectivement, pour moi, de salaires qui sont parfois différenciants entre hommes et femmes, alors même si certains chiffres sont exagérés ou minorés, etc., et je pense que la suite de la question, c'est au-delà du salaire, moi je constate dans mon entourage ou quand on entend parler les gens, donc effectivement, les femmes sont plutôt tout le temps en plus du travail, quand elles peuvent travailler. À la maison, c'est elles qui font le repassage, les courses, qui s'occupent des enfants, qui font les devoirs avec les gamins, etc., etc. Et ça va encore, à mon avis, aggraver la situation femmes qui sont parfois célibataires.
Franck, ça change progressivement, non, vous le voyez dans votre entourage
au fur et à mesure que les générations avancent, on va dire les vieux réas qui cassent leur pipe, et les jeunes progressistes, ils font avancer le schmilblick. Mais grâce à des
c'est
gens comme...
C'est pas binaire,
Non, c'est pas...
Les vieux réas et les gentils progressistes, les vieux réas qui ralentissent tout, et les gentils progressistes. Mais excusez-moi,
Venant de votre part, je prends ça comme un compliment.
Très bien. Pardon, cher David. Non, mais j'ai une question à lui poser.
Question de... C'est Franck.
Franck, pardon. Pardon, cher Franck. Mais excusez-moi, vous pouvez dire, sur ce qui est de la vie privée, il y a aussi le choix des gens. Si vous voulez, les gens vivent comme ils l'entendent. Vivent comme ils l'entendent.
Il n'y a surtout pas le poids d'une société qui apprend aux femmes à faire « toi, tu seras une gentille petite femme, et puis toi, tu seras un don juan, tu pourras aller draguer les nanas, machin et tout. »
Il n'a pas tout à fait tort, Elisabeth. Il y a
Je fais ça à gros traits, parce que forcément, en quelques secondes, c'est compliqué. Bien sûr qu'il y a des nuances. Moi-même, j'ai plein de mes amis qui se comportent pas comme des gros machos, et je connais aussi des femmes qui disent non, moi franchement quand j'ai fini de bosser, les gamins c'est mon chéri qui s'en occupe. Mais majoritairement, effectivement, et tiens, je rejoins un petit peu le puisqu'on avait quelqu'un d'extrême droite tout à l'heure, le modèle travail-famille-patrie de Pétain, dont certains, alors, ce qui me fait bien rigoler, c'est quand Ménard, Zemmour, qui se réclame du gaullisme, pour des gens qui tentent de réhabiliter Pétain, pour celui qui connaît un peu l'histoire, ça fait juste péter les neurones en deux. Mais bon, bref, tout ça pour dire.
Mais il n'a pas dit ça, lui,
non,
Robert
non,
Ménard.
Ménard, non.
Et Zemmour, non.
Intelligent
plus.
Pour pas dire. Non, si, sur certains.
Attendez, on va pas refaire le débat sur Zemmour.
Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des courants politiques qui, on va dire, poussent un peu à l'égalité, et d'autres qui n'ont pas envie que ça change parce qu'ils ont simplement un intérêt. Donc moi, ce que je voulais soulever, c'était qu'il y avait la question du salaire, mais il y a aussi toutes les autres questions, des femmes célibataires qui travaillent. Tiens, on n'a qu'à parler de François Ruffin et de son film, qui met un petit peu en lumière ce genre de problématiques. Et à mon avis, sont supplémentaires au problème des salaires.
C'est vrai.
Mais après, voilà.
Merci Franck pour votre. Non, mais c'est une bonne contribution à ce débat. C'est vrai. Restez.
Bonne continuité à tous.
Oui, restez fidèles, effectivement, à Sud Radio. Cécile, avec un message aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup.
De Jacques, une réflexion qui nous dit avant qu'une parité de salaire s'installe dans les mœurs de l'entreprise, l'égalité femmes-hommes doit être totale en dehors de l'entreprise, notamment dans le domaine social. Voilà, oui, c'est une réflexion.
Allez, on continue dans un instant, on a pris un petit peu de retard, évidemment.
A tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h07, dans quelques minutes, Daniel Rosenweg sera avec nous, le livre très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel. Vous voulez nous en parler ou témoigner, 0826-300-300. En attendant, c'est la suite des grands débats avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois.
Oui, on va parler, on avait évoqué Merkel tout à l'heure, les violences autour de la police, on va en parler en fait dans un instant. Il y a aussi le débrief de l'interview de Robert Ménard, mais le sujet sur la parité et ce que vous avez dit tout à l'heure, et avec Franck, suscite aussi encore des réactions au 0826-300-300. Qui est avec nous ?
Mickaël de Paris. Bonjour, Mickaël
de Paris.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Mickaël, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est ça, autour de la parité.
Absolument. J'ai du mal à comprendre quelqu'un qui lutte pour l'égalité des femmes et des hommes alors qu'il n'y aura jamais d'égalité puisque ce sont deux sexes différents avec des modèles de comportement et de raisonnement totalement différents. Néanmoins, ils doivent avoir accès à des postes de responsabilité. Je suis, moi, dirigeant, je n'ai jamais... En fait, c'est vrai que les habitudes ont changé, il y avait des gens machos, il faut dépasser les croyances limitantes qui prennent l'évolution des femmes. Néanmoins, pour moi, ce qui compte à l'instant T, c'est la compétence, c'est l'expertise de la personne, et c'est sa capacité à amener cette performance, quel que soit le modèle de travail. Alors ça, c'est un concept nouveau, c'est vrai, qui va aider sûrement avec le télétravail. C'est, en fait, où que vous soyez, vous avez de la techno qui vous permet d'intervenir. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on aurait une victimisation des femmes, disant que elles sont pas égales, ça n'est pas le même salaire. Vous savez, de plus en plus, les salaires sont alignés, et ça ne doit jamais être le sexe qui détermine la compétence ou l'expertise de quelqu'un.
Oui, bien sûr. Et vous, quand vous avez en face de vous des candidats ou des candidates, vous ne regardez pas si c'est un homme ou si c'est une femme, peu importe, c'est la compétence, quoi.
Mais c'est évident. Ouais. D'abord, quand on regarde un candidat, on le regarde de manière systémique. C'est son système dans son ensemble. Ouais. C'est-à-dire aussi bien sa présence, sa capacité, sa dynamique, son empathie et son implication surtout dans ce qu'elle va faire. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère du neuromarketing, des neurosciences. On a des communications nouvelle génération, des comportements nouvelle génération. Et il y a un élément fondamental, c'est l'économie de l'attention. C'est-à-dire, on veut des gens hyper impliqués, hyper attentifs, qui puissent agir où qu'ils soient et quel que soit le device, c'est-à-dire le support avec lequel ils réagissent. À partir de ce moment-là, cette vision systémique étant prise en compte, ça n'est pas le sexe. Mmh. Ça n'est pas le sexe.
Enfin, oui. Non, non, mais oui. Merci, hein, Michael, pour votre, votre réflexion. Donc voilà, bah, qui conclut, je trouve, le débat en fait, de tout à l'heure, c'est la compétence qui doit effectivement être privilégiée dans le recrutement avec des salaires qui sont aujourd'hui au même niveau quand on recrute sur un poste. C'est ce qui se fait globalement partout, quoi. Alors évidemment, il y a des gens qui les ont progressé moins vite. Et puis voilà, et puis
un, moyens, un mot, juste un mot, c'est Daniel. Hein, Michael, pardon, excusez-moi.
Vous pouvez l'appeler Daniel.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Cher Michael, à mon avis, la différence, et je suis très attaché à la différence des sexes, ne doit surtout pas exclure l'égalité. Et je pense que nous devons nous battre pour avoir les deux. Le début du propos de Michael, c'était de dire il ne peut pas y avoir d'égalité parce que ce ne sont pas les mêmes sexes. Il peut y avoir égalité et différence.
Ce qu'il voulait dire, en fait, Michael, c'est que l'homme et la femme ne vont pas changer aussi. Il ne faut pas les changer.
Je suis d'accord avec ça. Je dis qu'on doit concilier égalité et différence.
Allez, merci donc pour ce sujet. On pourrait encore en débattre des heures. Revenons aussi dans le factuel avec vous, Félix Mathieu, sur ce qui s'est passé quand même dans le Val d'Oise en ce début de semaine. Hein. Un policier en civil qui a été roué de coups dans un train. Les agresseurs connaissaient sa profession, ils l'ont reconnu et donc ils sont allés le tabasser ensuite. Félix Mathieu, des agressions contre les policiers en augmentation dans le factuel ces 20 dernières années.
Oui, la police nationale recensait ces derniers mois environ 85 actes par jour de violence contre des agents, violence contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors oui, c'est deux fois plus qu'il y a une vingtaine d'années d'après Le Monde et on ne parle que des faits signalés par les agents et pourraient donc être sous-évalués, même si d'autres au contraire font valoir que ces chiffres viennent de la police elle-même et donc ils les prennent un peu avec des pincettes, ces chiffres. En tout cas, plus de 27 000 faits de violence contre des policiers recensés l'année dernière. C'est une légère baisse par rapport à 2019, mais c'est parce qu'il y a eu les confinements. En revanche, c'est une hausse nette par rapport aux environ 13 000 violences contre des policiers qui avaient été recensées il y a une vingtaine d'années, en l'an 2000.
Oui, alors il y a un débat qui a surgi ces dernières années, l'anonymat des policiers.
Oui, on en parle effectivement depuis ce terrible attentat de Magnanville contre ce couple de policiers à leur domicile. Alors pour les protéger, depuis 2018 notamment, ils sont censés, dans les affaires les plus sensibles, être désignés par leur matricule et non pas par leur nom. Pour autant, depuis ça, sur le terrain, des agents et leurs syndicats notamment mettent en avant les cas de menaces nominatives sur les réseaux sociaux ou même en vrai. Il y a eu cette affaire de photos de policiers placardées à Épinay-sur-Seine en avril.
Ou dans des clips de rap.
Voilà. Donc, concernant le policier blessé dans le Val d'Oise, par exemple, les agresseurs l'ont insulté en faisant référence à son métier, même si pourtant il était en civil.
Oui, il était en civil, mais il a été reconnu. Et c'est vrai qu'il y a en ce moment des choses assez. L'atmosphère est quand même assez terrible. On a vu des noms de policiers tagués à Vigneux, dans l'Essonne, à Beaugrenelle également, quelques tags récemment.
Moi,
Françoise, de quoi ?
Je suis tombée de l'arbre quand j'ai entendu un syndicaliste policier de SGP Police, je pense. Ouais. Comment il s'appelle ? On le connaît très bien, il est assez souvent sur les plateaux.
Oui.
Non, pas du
Mathieu
tout.
Vallée. Bon, peu importe.
Mathieu Vallée, nous expliquer qu'on est chez les fous, notamment sur l'anonymat, qu'en fait, ils ont un problème purement technique de logiciel qui ne leur permet pas d'anonymiser, par exemple, les déclarations. Vous savez, quand faites une main courante ou bien quand vous recevez une plainte, en réalité, pour un simple système technique de logiciel, eh bien, ils ne parviennent pas à garantir l'anonymat. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller dans l'anonymat. Ce qui s'est passé me révulse. Je fais partie des gens qui ont toujours, qui regardent toujours quand ça se passe pas bien dans les manifs, qui dénoncent vraiment les bavures policières, etc. Mais là, avec la même force, il faut dire que ce qui se passe n'est pas acceptable. Il n'est pas possible qu'un policier se fasse défoncer, se fasse rouer de coups parce qu'il est policier. Donc il faut travailler à l'anonymat. Et, et apparemment, d'après un certain nombre de syndicalistes, c'est un problème aussi technique de budget
logiciel.
Excusez-moi, mais là, l'anonymat, Elisabeth, vous avez raison, chère Françoise, mais là, l'anonymat n'aurait rien changé parce qu'ils l'ont reconnu visuellement.
Oui,
donc, si tu veux, c'est pas, moi, ce que je vois, c'est plus largement, c'est-à-dire que la police ne fait plus peur à ces gens, et il faut se demander pourquoi. Pourquoi la police ne fait pas peur? Alors, il y a la question de la justice, mais il y a aussi la question de l'exercice de la force. C'est-à-dire qu'il faut à un moment que ces gens sachent que quand ils s'en prennent à un policier, ils prennent un risque. Pas seulement un risque pénal, bien sûr, mais ils prennent un risque parce que les policiers doivent pouvoir riposter au LBD, à ce qu'on veut. Si vous voulez, je dis pas qu'il faut qu'ils deviennent des cow-boys, et d'ailleurs, ils n'en ont pas la moindre envie, mais on voit bien, si vous voulez, c'est pas possible que la peur soit à ce point disproportionnée. C'est oui. les policiers qui ont peur aujourd'hui.
Et il y a quelque chose aussi d'assez terrible dans cette histoire, mais c'est très difficile de lutter. C'est que, évidemment, ces policiers, pour la plupart, ils habitent dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits. Et ils sont facilement identifiables, reconnaissables. Il y a quelques années, on faisait tout pour les éloigner de leur lieu d'intervention. Aujourd'hui, ils ne sont pas si loin que ça et ils sont forcément facilement reconnus.
Et c'est vous ce avez qui raison, passé, mais quoi. D'une façon générale, d'ailleurs, il faut s'interroger au-delà même des policiers. Il y a un certain nombre de fonctionnaires, des profs, d'agents de l'État, qui ont des salaires absolument misérables, qui ne leur permettent pas de se loger, notamment dans les centres-villes. On sait que les loyers dans les centres-villes sont hors d'atteinte. Et qui effectivement, il faut quand même... Là, je dois dire, je ne suis pas souvent d'accord avec Fabien Roussel, qui dit, à mon avis...
Du PC, oui.
Mais là-dessus, il a fait une déclaration il y a quelques temps, où on retrouvait un peu quand même le
Qu'est-ce
rôle...
Qu'est-ce qu'il disait?
Il disait justement que c'est... Alors lui, il appelle ça les premières lignes. J'aime
pas
ce
c'est
jargon,
ça, mais c'est,
ce
c'est
jargon
ça.
Covido-macroniste m'agace, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un tas de gens dont il disait qu'il fallait reconsidérer leur utilité sociale, parce que leur utilité sociale est énorme et que leur salaire doit être
J'ai été d'accord avec Fabien sur la Roussel, sur Fabien la première Roussel. Partie, sur la deuxième non, c'est-à-dire dire par exemple qu'un policier ça sert à quelque chose, un trader ne sert à rien.
Ah non, j'ai pas dit que ça servait à rien.
La deuxième partie de la proposition de Fabien Roussel, c'était le trader sert à rien. Là, je suis pas d'accord, tout le monde a une utilité sociale.
Vous avez raison, mais il y a des gens
dont... certains traders, peut-être, où c'est à revoir.
Il y a des commencer moralement à dire, toi, tu sers à quelque chose.
Mais il y a des gens dont l'utilité n'est pas reconnue.
100% ok, voilà. On est d'accord.
On a une émission, justement, sur Sud Radio maintenant, sur l'utilité, sociale. C'est un nouveau terme qui est apparu également.
Mais c'est grave, c'est un terme dangereux, moi, je trouve. C'est un dangereux terme, attention.
C'est intéressant, sur ce que l'on fait d'utile ou pas pour la société, bien sûr. Allez, dans un instant, est-ce qu'elles sont utiles? Les mutuelles.
Nous, on est utiles.
Vous
publique.
Devriez être remboursé par la sécurité sociale avec les complémentaires qu'il faut. Dans un instant,
est-ce qu'elles profitent de notre argent, les mutuelles?
Merci.
Voilà, c'est ça. C'est une vraie question. On en parlera avec Daniel Rosenweg qui sera avec nous. C'est chez Albin Michel. Ça s'appelle le livre Très noir des mutuelles. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, merci d'être avec nous. La suite des grands débats avec un débat sur les mutuelles. Le livre s'appelle Le Livre Très Noir des Mutuelles aux éditions Albin Michel et avec le grand reporter spécialiste de l'économie et de la santé. Daniel Rosenweg est avec nous. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous voulez témoigner, bien entendu.
Oui, parce que
vous soyez mutuel ou pas.
Bonjour Daniel Rosenweg.
Bonjour.
On avait compris quand même qu'une mutuelle, ça devait servir à l'ensemble des dépenses de la santé et venir en complément de la sécurité sociale qui ne pouvait pas tout rembourser. Fondamentalement, c'est quand même ça, quoi, l'origine. Quoi, hein.
Le principe, c'est ça, en effet. Après, elles sont loin de rembourser tout, même la majorité. Quoi. Parce que moi, quand je discute avec les gens, quand j'ai évoqué mon projet de bouquin, et le sous-titre du bouquin, c'est « Pourquoi et comment il faut s'en passer
?»
Les gens comment elles profitent de votre argent.
Absolument. Mais si vous regardez, vous verrez en page 3...
Mais non, mais c'est un peu comme les banques,
c'est
aussi.
Ça. Bon. Voilà. Non, mais alors, là-dessus, je vais faire une petite mise au point après, mais c'est juste pour vous dire que quand j'ai annoncé ça, les gens m'ont dit « Se passer des mutuelles, mais tu rêves, c'est totalement impossible, on a absolument besoin. » Et notamment avec une amie qui travaille dans un poste assez élevé dans une mutuelle, et on a discuté pendant une demi-heure, au bout de la demi-heure, elle m'a dit... Là, je suis obligé de reconnaître quand même que oui, effectivement, il y a des trucs qui vont plus.
Ouais. Vont plus. Non, mais voilà. C'est comme les assurances, globalement, quoi. Ouais. Les assurances, évidemment, ça coûte un peu cher, mais ça peut être utile à un moment donné, quoi.
On est d'accord. Alors la petite nuance que je mets, c'est qu'on est dans un système libéral. Donc, tous les comportements sont acceptables dans la mesure où ils respectent la réglementation et les lois. Là, on est dans le domaine de la santé. C'est un domaine très particulier. Vous avez énormément de Français qui renoncent à se soigner. Vous avez 5% de Français qui ne sont pas couverts par une complémentaire santé. Vous en avez 5 millions qui sont couverts par la complémentaire santé universelle, l'ex-CMU et ACS, etc. Vous avez 11 millions de Français aujourd'hui qui ne peuvent pas s'offrir une assurance sans une aide de l'État. Mmh. 11 millions. Mmh. Donc ça montre bien quand même que c'est devenu un produit de luxe. Mmh. Donc il y a un problème.
Et alors ce que vous dites notamment de façon flagrante dans ce livre, c'est que évidemment on utilise beaucoup plus les mutuelles quand on est malade, etc. Et plus on vieillit, quoi. Et que les personnes âgées, c'est elles qui devraient être un peu bénéficiaires de ça. Et c'est elles qui finalement sont un peu les cibles en quelque sorte, quoi.
C'est ça.
Il y a des inégalités, en fait.
Ouais. C'est un euphémisme, en fait. Il faut savoir, quand les mutuelles ont été créées, c'était des sociétés de secours, c'était dans les années 1780. Mmh. Des petites sociétés dans les petites entreprises, entre métiers, etc. L'idée, c'était la solidarité complète, c'est-à-dire on mettait tous la même chose au pot et on prenait dans le pot quand on avait besoin, si on en avait besoin. Ouais. Bon, vous voyez bien, le modèle aujourd'hui n'a rien à voir. Aujourd'hui, le modèle de ce qu'on appelait la solidarité intergénérationnelle a quasiment disparu, au profit de l'assurance au risque. C'est-à-dire que vous avez quel âge, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous habitez dans quelle ville? Parce qu'il y a des inégalités même entre villes.
Oui, c'est ce que
c'est
vous dites. Ouais.
Incroyable, voilà, quand on passe un peu le scanner sur les
sur tarifs. Sur l'âge, le statut professionnel et les villes.
Absolument. Ouais. Non, mais les inégalités sont partout.
Et là, il y a une inégalité qui s'aggrave, quoi. Au fil des années, ça s'est aggravé, quoi, non?
Ça s'aggrave parce que d'abord les tarifs ne cessent d'augmenter et comme ce sont des pourcentages, ça pénalise ceux qui payent le plus. Ceux qui payent le plus, ce sont les retraités.
Et puis donc retraités, pardon, à Paris voilà et finalement inactifs, c'est.
Oui, c'est je crois, j'avais donné les chiffres dans le bouquin, ça doit être 1287 euros hein, versus un étudiant qui est domicilié à Rennes et qui va payer lui 384 euros. Alors, évidemment, l'étudiant, il est content. Mmh. Et certaines personnes m'ont dit, d'ailleurs, là encore, en discutant pendant la rédaction du bouquin, mais les jeunes n'ont pas à payer pour les vieux. Déjà, j'étais un peu choqué par ce principe. Et je lui expliquais, mais quand tu seras vieux, tu sais, tu seras bien content que les jeunes soient solidaires pour toi au moment où toi, tu vas perdre 40% de ta retraite et où tu vas avoir des gros besoins de santé. Là, tu seras content de ne pas payer 200 euros par mois, voire 250, 300. Enfin, on a vu j'ai un exemple, un témoin dans le bouquin qui me raconte qu'il paye 5000 euros pour lui et sa femme. Et alors,
bah non, mais s'il veut,
il rembourse tout, même le coton.
Bah oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que bien souvent, on est pris un peu par ces publicités, quoi, qui disent vous êtes remboursé, surremboursé, etc. Et donc, à la fin, on paye et on paye. Quoi.
Ça, c'est faux. Ça, c'est juste de la communication. Bon, d'abord, il faut savoir, le marché français, c'est le premier marché d'assurance santé en Europe. Mmh. Ça pose quand même la question, et si on était surassuré, en fait? Bah oui, on est surassuré. Pourquoi? Parce que c'est mutuel, c'est complémentaire santé, en sens large, hein, qui regroupe donc mutuelle, institution de prévoyance et assureur privé, hein, ce sont les trois acteurs. Eh bien, elles communiquent beaucoup sur la peur, l'anxiété. C'est vrai dans l'assurance, aujourd'hui, vous avez des nouveaux produits qui sortent, mais... C'est l'assurance. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la santé, parce qu'il y a des gens qui renoncent à se soigner. Et ça, c'est dramatique.
Oui, mais Daniel Rosenweg, quand même, il y a eu une évolution au fil d'une trentaine d'années où les mutuelles ont beaucoup apporté à certains qui n'hésitaient, qui hésitaient avant d'aller se faire soigner parce qu'elles n'avaient pas les moyens, ce n'était pas bien remboursé. Et aujourd'hui, en prenant les complémentaires, les complémentaires leur permettent d'aller faire des soins pour les dents, d'aller en fait faire passer des examens aussi. Ça, on ne peut pas le nier quand même.
Oui, alors, c'est vrai, il y a eu une belle époque, moi-même, hein, je me rappelle. Oui. La mutuelle, c'était quelque chose quand j'étais jeune.
Bien sûr.
Entendu, je ne suis plus jeune, effectivement. Oui. Mais aujourd'hui, une mutuelle, c'est quoi déjà la différence entre une mutuelle et une société d'assurance, une institution de prévoyance? Je ne sais plus, parce que au-delà des discours, les faits font que tous les acteurs se ressemblent. D'abord, parce que l'encadrement des contrats, etc., se resserre de plus en plus et qu'ils offrent tous de plus en plus le même produit. Mmh. Il y a des plafonnements de remboursement, il y a des planchers de remboursement. Donc, dans ce cadre-là, on se dit, qu'est-ce qui fait la différence entre une mutuelle, une assurance privée et une institution de prévoyance, vous voyez ?
Ouais. Allez, on va continuer dans un instant avec vous et vous pouvez réagir 0826 300 300. Peut-on se passer de mutuelle, par exemple, quoi ? Est-ce qu'il faut revoir aussi ce contrat de mutuelle ? Est-ce que les mutuelles ont un trésor de guerre ? C'est ce que l'on va voir avec vous et elles ont fait des économies pendant la pandémie. 0826 300 300, vous pouvez réagir avec Daniel Rosenweg pour ce livre.
très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel, et on verra s'il y a un modèle qui existe aujourd'hui en France qui est intéressant par rapport aux autres. Restez avec nous, il est 9h28.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h30, peut-on se passer des mutuelles de santé? Eh ben Daniel Rosenweg est avec nous ce matin pour ce livre, le livre très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel. Vos appels, comme tous les matins, 0826-300-300, vous voulez témoigner ou vous êtes mutualiste? Eh ben, appelez-nous.
Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait vraiment se passer de mutuelles, en fait, aujourd'hui?
Mathématiquement parlant, oui. Et c'est un peu une démonstration que je fais dans le livre. C'est-à-dire que, mais il ne faut pas le décider du jour au lendemain, et particulièrement à nos âges, sans vouloir être désagréable. Mais non, il faudrait avoir une stratégie dès le départ et dire, je ne prends pas de mutuelle, complémentaire santé, pardon. Mais par contre, je mets cet argent de côté. Donc, au lieu de payer 100 euros par mois, je mets 100 euros sur un compte rémunéré, comme le livret A de la Caisse d'épargne, qui est très, très peu rémunéré. Et vous verrez que à l'échelle d'une vie, vous économisez environ 36 000 euros versus 70 000 de versement, quoi. Pourquoi ? Parce que vous avez...
Oui, mais c'est une assurance, quoi, aussi, en même temps. C'est ça, quoi. C'est le principe de l'assurance, l'ensemble des assurances que vous payez, quoi.
Oui, elles vous payent le risque.
Les assureurs l'ont bien compris, d'ailleurs.
Oui, oui. Mais qu'est-ce que sont les complémentaires santé aujourd'hui, sinon des organismes de crédit ? Ce sont des organismes de crédit et qui vous font payer très cher le crédit. Elles vous font payer deux choses. Alors, il y en a une, elles n'y sont pour rien, ce sont les taxes. 13-24% sur les contrats responsables, qui sont 95% des contrats. Et elles vous font payer leurs frais de gestion. 20% en moyenne en 2019, c'est monté jusqu'à 21%. Bon, c'est assez
stable. C'est un peu normal, quoi. Il faut qu'elle fonctionne aussi, quoi.
Oui, enfin. On va faire un crochet sur les frais de gestion,
l'ensemble des entreprises ont des frais de gestion quand vous achetez une voiture, quand vous achetez, en fait, n'importe quoi, bien sûr.
Alors, moi, souvent, on me dit, d'accord, 20% de frais de gestion pour les complémentaires santé. Alors, tout de suite, je précise, attention, si c'est sur les contrats d'entreprise, la moyenne, c'est 13%. Si c'est sur les contrats individuels, c'est 28%. Il y en a qui sont à 38%, c'est-à-dire que sur 100 euros que vous versez, il y a 38 euros qui partent dans tout un tas de choses, on ne sait pas trop lesquelles, parce que ce n'est pas que les salaires des employés.
Oui.
Pardon.
Allez-y. Non, mais d'ailleurs, vous revenez sur ce chiffre de 3 milliards, la publicité, le marketing, le sponsoring, et vous posez même cette question, disons, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une mutuelle de faire du sponsoring ?
Absolument, oui. Alors, les frais de gestion, c'est quasiment 8 milliards aujourd'hui. Ouais. Et dans ces 8 milliards, il y a effectivement 3 milliards qui sont ce qu'on appelle les frais d'acquisition, c'est-à-dire l'argent qui est dépensé pour essayer d'aller piquer les clients aux autres, parce que le marché est mature. Donc, c'est pas des nouveaux clients qui prennent, ils vont les chercher chez les autres. Est-ce qu'on a besoin de ça dans notre système ? Est-ce que moi, j'ai envie de financer la guerre des prix ? Non.
Notre société de consommation fonctionne ainsi, quoi. Donc, cette guerre, cette concurrence, donc les uns les autres. Et parfois, la concurrence, parce que normalement, et aujourd'hui, il y a des comparateurs qui existent. Et vous-même, dans votre livre, vous comparez un petit peu certaines mutuelles. Vous donnez un certain nombre de conseils. Donc, je recommande votre livre. Ce qui veut dire que la concurrence aussi, normalement, elle doit tirer parfois les prix vers le bas, quoi.
Eh bien, c'est le paradoxe de ce domaine. C'est-à-dire, tout le monde me dit, la concurrence, normalement, et tous les politiques, c'est leur justification à chaque fois pour faire passer des nouvelles lois, on va mettre de la concurrence pour faire baisser les prix. Alors moi, qui ai suivi pendant un certain temps la téléphonie, je confirme, ça marche. Xavier Niel a bien fait baisser les prix dans la téléphonie.
Oui.
En revanche, dans la santé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que...
Vous dites même qu'on la paye.
Pardon ?
Vous dites même qu'on la paye, cette concurrence ?
Bien sûr, on la paye. Ces fameux 3 milliards, par exemple, c'est nous qui les payons, de toute façon, parce que l'argent qui rentre dans une complémentaire santé, c'est le nôtre. Et quand c'est dans une mutuelle, il est le nôtre, même quand il est mis de côté. Il reste celui des assurés, pas celui des dirigeants. Il faut qu'ils s'en rappellent, quand même, de temps en temps. Pardon, j'ai un petit peu oublié ce que
que finalement, la concurrence aujourd'hui, elle n'est pas gratuite, quoi.
Alors, en fait, la concurrence, elle génère des comportements agressifs entre organismes même. Et alors, le problème, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois types d'organismes. Vous avez les assureurs privés qui dépendent du code des assurances. Vous avez les institutions de prévoyance qui dépendent du code de la sécurité sociale. Et vous avez les mutuelles qui dépendent du code de la mutualité. Déjà, c'est un peu compliqué. Et elles n'ont d'abord pas les mêmes règles, elles n'ont pas les mêmes éthiques, pas les mêmes objectifs. Les assureurs privés, il faut qu'ils rémunèrent les actionnaires. Vous voyez, les mutuelles, elles n'ont pas de profit à faire. Mais elles ont le droit de faire des excédents qu'elles doivent réinjecter, oui, mais elles n'ont pas le droit de faire de profit.
Alors, les mutuelles, avec les autorités, le gouvernement, dernièrement, il y a quand même eu une petite révolution sur la prise en charge. Le 0 euro pour...
Le 100% santé.
Oui, 100% santé pour les dents, pour les lunettes. Ouais. Ça a plutôt bien marché. Et c'est venu un peu des mutuelles en même temps, non ? Qui ont fait pression auprès du gouvernement, non ? Non ?
Pas sûr que ce soit venu vraiment des mutuelles. Peut-être qu'elles s'en servent un petit peu maintenant pour faire la communication, mais c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, hein, ce 100% santé. C'est un sujet qui, en fait, le principe du forfait où on rembourse, c'est un principe qui remonte dans les années 99, si j'ai bonne mémoire. Il y avait le CAE, donc le Conseil d'analyse économique, qui avait fait des propositions dans ce sens-là et qui disait peut-être c'est la solution de faire des offres comme ça forfaitaires avec zéro reste à charge. Donc c'est une idée qui a fait son chemin. Et justement, l'arrivée de ce 100% santé, il contribue à faire disparaître les dernières différences qu'il pouvait y avoir entre les différents acteurs de la complémentaire santé, puisque finalement, on le voit petit à petit, ils finissent par proposer le même produit. Ouais. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport qu'elle a publié cet été, disait rien d'autre que il faut proposer des paniers, alors peut-être élargir autre chose que les paniers sur les audioprothèses, les dents et l'optique. Et puis après, on laisse les complémentaires santé commercialiser ces offres-là, vous voyez. Et moi je dis, mais quel intérêt d'avoir 439 acteurs sur le marché qui vous vendent le même produit. Aucun intérêt, bien au contraire, puisqu'elles vont se battre pour le vendre, et donc elles vont dépenser notre argent pour essayer d'acquérir... vous savez, c'est 350 euros pour acquérir un nouveau client. 350 euros.
Oui, mais alors là, vous allez vers une nationalisation, en quelque sorte, quoi, pour tout reprendre autour de la sécurité sociale, l'assurance maladie.
Là, vous m'attirez vers ma proposition finale.
La réforme.
La réforme. Bon, alors, ce qui est en train d'être avancé en ce moment, on l'a bien vu avec quelques petites fuites qu'il y a eu du Haut Conseil de l'assurance maladie qui va rendre son rapport. Alors,
un peu durci le ton.
Alors, non pas là au mois de novembre comme c'était prévu, manifestement ils ont du retard pour les informations que j'ai. Ils ont deux réunions à venir, 18 novembre et 25 novembre, c'est pour finaliser leur rapport et donc il ne sortira qu'en décembre. Donc on va en reparler encore en décembre. Et pour la première fois, ce Haut Conseil va proposer quatre scénarios au lieu de un d'habitude. Et dans ces scénarios, il y a justement l'idée de faire une espèce de grande sécu. Voilà. C'est un modèle intéressant qui a été promu déjà en 2017 par messieurs Didier Tabuteau et Martin Hirsch dans un article qui a été publié dans Le Monde. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que il faut aller plus loin ou un peu à côté, je dirais. C'est-à-dire, on prend l'assurance maladie qui a fait la preuve de son efficacité. Elle rembourse en 7 jours, elle est super efficace, elle est présente, elle est réactive, on l'a vu avec le Covid. Enfin bon, moi je ne vois pas grand-chose à lui reprocher. Toute la paperasserie qu'on lui reprochait hier, c'est fini, tout ça.
Il y a des fraudes, paraît-il. Enfin ça, c'est autre chose.
Ça, ce n'est pas l'assurance maladie qui est responsable de ça. Même si elle peut travailler un peu sur le sujet. Non. Mais à côté, il faut un garde-fou. Pourquoi ? Parce que si demain, vous étatisez l'assurance maladie, quand ça va être un gouvernement de gauche qui va être au pouvoir, il va dire, bon, il y a un trou dans la sécu, les dépenses de santé dérivent, paf, on réduit les rémunérations des professionnels de santé.
D'accord, on l'a vu, Michel Rocard, il y a eu en fait la volonté de mettre des impôts supplémentaires à l'époque, bien sûr, pour combler ce trou de la sécu.
Et donc, je poursuis juste ma démonstration, pardon, mais... quand vous avez un gouvernement droite qui arrive, lui, il va faire des économies sur le dos des assurés. On va réduire les remboursements. Et donc, de gouvernement en gouvernement, d'alternance en alternance, on voit qu'à chaque fois, tout le monde en prend plein la figure et on est impuissant. Donc, ce que je suggère, c'est d'adosser à l'assurance maladie une seule et unique complémentaire santé obligatoire sur tout le territoire. Elle existe, cette complémentaire santé. Moi, je lui trouve beaucoup, beaucoup d'avantages. Ça s'appelle le régime local d'Alsace-Moselle. C'est un régime obligatoire dont la cotisation n'est pas calculée sur votre risque, mais sur vos revenus, tous les revenus. Elle est dirigée par les partenaires sociaux qui sont élus. Et ses frais de gestion, pardonnez, c'est c'est 1%, ces frais de gestion, mais versus alors, 20% pour les mutuelles.
Ouais. Mais que vont devenir toutes les autres mutuelles, ce sont des milliers d'emplois.
Alors
aussi.
D'abord, je réponds aussi à la question dans le bouquin, parce que je m'attendais à ce que les mutuelles me disent ah, « et donc on supprime ton emploi
».
Le chantage à l'emploi, classique, et légitime d'ailleurs. Eh bien moi je dis, d'abord il y a, à mon sens, mais c'est un peu à la louche, je l'admettrai, mais il fallait bien faire un petit calcul. Je pense que 15 000 personnes peuvent venir renforcer les troupes de l'assurance maladie pour compenser la hausse de travail, l'augmentation de travail qui va sortir de tout ça. Et pour le reste, il y a plein de choses à faire. Il y a de la prévention, il y a le remboursement de tout ce qui n'est pas remboursé au premier euro, qu'elle pourrait rembourser, la naturopathie, l'ostéopathie... qu'est-ce que vous avez ? Vous pouvez faire aussi beaucoup sur l'autonomie. C'est un marché à 30 milliards d'euros.
Bon, bah
l'autonomie. 6 milliards de reste à charge pour les patients. Alors là, s'il n'y a pas de quoi faire...
Bon, en tout cas, c'est un bon débat pour la présidentielle aussi. Daniel Rosenzweig, votre livre. Donc,
Hyper intéressant.
Les mutuelles. On rappelle le titre du livre. Donc.
Oui, le livre très noir des mutuelles aux éditions Alma Michel.
Et on invitera aussi les mutuelles pour vous répondre et pour entendre un peu leur
version. Et je
leur
répondrai volontiers parce qu'elles sont en train de vous dire des choses qui sont scandaleuses. Ça va nous coûter très cher si ça revient à l'assurance maladie. Parce que, évidemment,
il y a une hausse des prix, là.
Ils annoncent une hausse des prix de 7 à 10%. Et du coup, ce qu'il faut préciser, c'est que si ça passe à l'assurance maladie, dans le modèle que souhaite manifestement Emmanuel Macron, évidemment, il faut que les cotisations suivent.
Oui, bien sûr.
Donc, ça ne nous coûtera pas plus cher.
Allez, voilà, le débat est lancé. On les invitera. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Dans un instant, il faut se battre. Dans la France, à vos côtés, il faut se battre. Et là, en l'occurrence, on se bat pour préserver des cafés dans les cœurs de villages, dans les cœurs de bourgs.
Moins de 3500
habitants. Oui, c'est ça. Mais c'est dans ces petites communes. Mmh. C'est un lien social. Et dès qu'il n'y a plus de café ou de tabac, évidemment, sans faire la promotion
meurt.
De l'alcool ou du tabac, mais quoi qu'il en soit, il n'y a plus de vie. Donc, on en parle dans un instant avec une lutte très intéressante qui est menée.
Restez avec nous, il est 9h42.